de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, le commentaire et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie et bientôt je vais vous présenter les nouvelles d'aujourd'hui. Il y a quelques événements importants à informer, entre autres, 1086 travailleurs de la Birmanie ont été renvoyés de Malaisie chez eux. L'Union européenne pourrait imposer davantage de sanctions à la Biélorussie, a déclaré le ministre polonais des Affaires étrangères. La police géorgienne attaque les bureaux du parti d'opposition et arrête son chef. Au moins 9 personnes se sont noyées lors d'une sortie en famille sur le lac égyptien. Menée une diplomatie de navette, la ministre indonésienne des Affaires étrangères a discuté de la question de la Birmanie avec l'ASEAN. Le gouvernement tente de maintenir l'approvisionnement en vaccins. L'envoyé du président des Seychelles a visité le KEK et le géoparc de Babel. Mon cher auditeur, voici la nouvelle incomplète. 1086 travailleurs de la Birmanie ont été renvoyés de Malaisie chez eux. Le département malais de l'immigration, en collaboration avec les forces armées malaisiennes, en particulier la Marine royale malaisienne, le groupe de travail national et l'ambassade de la Birmanie, ont rapatrié 1086 ressortissants de la Birmanie sans autorisation mardi. Le directeur général de l'immigration Malaisie, Dato Indra Khairul Jamie bin Daoud à Putrajaya a déclaré que tous les citoyens partis de la Birmanie sont détenus dans des dépôts d'immigration à travers l'État depuis 2020. Le département malais de l'immigration tient à souligner que tous les détenus renvoyés chez eux sont des citoyens sans autorisation de la Birmanie et le fonds n'est pas impliqué Rohingyas ou demandeurs d'asile. Les personnes escortées chez elles ont accepté de rentrer chez elles volontairement sans contraindre personne. Il a déclaré que le programme de livraison des retours faisait partie de l'activité contenue du département malais de l'immigration concernant le processus d'expulsion des détenus placés au dépôt d'immigration. L'Union européenne pourrait imposer davantage de sanctions à la Biélorussie, a déclaré le ministre polonais des Affaires étrangères. L'Union européenne pourrait imposer de nouvelles sanctions à la Biélorussie après que Minsk a emprisonné deux journalistes pour avoir filmé des manifestations, a rapporté mardi l'agence de presse polonaise PAP, en citant l'affirmation du ministre polonais des Affaires étrangères, Zbigniew Rau. La Biélorussie a détenu plus de 33 000 personnes dans le cadre d'une violente répression des manifestations contre le pouvoir du président Alexandre Loukachenko à la suite des élections générales d'août, qui selon les opposants étaient frauduleuses. Loukachenko est au pouvoir depuis 1994. Rau a cité dimanche dernier le PAP selon lequel un tribunal biélorusse avait emprisonné deux journalistes biélorusses pendant 2 ans pour avoir organisé une manifestation contre Loukachenko. Les deux journalistes, Katsiarina Andreyeva, 27 ans, et Daria Shultsova, 23 ans, ont été arrêtés en novembre dans un appartement qu'elles utilisaient comme point de vue pour filmer une manifestation sur la mort d'un manifestant, tué quelques jours plus tôt. Pendant ce temps, la Grande-Bretagne, le Canada et les États-Unis ont également imposé des sanctions aux responsables biélorusses. La police géorgienne attaque les bureaux du parti d'opposition et arrête son chef. La police géorgienne a pris d'assaut les bureaux du parti du chef de l'opposition Nika Melia et l'a détenu mardi matin, quelques jours après la démission du premier ministre Georgi Gakaria parce qu'il n'était pas d'accord pour que la figure de premier plan de l'opposition soit arrêtée. Melia, chef du parti d'opposition du Mouvement National Uni MNU, a été accusé d'incitation à la violence lors des manifestations de rue en juin 2019. Il a rejeté les accusations qu'il considérait politiquement motivées. Un tribunal de la capitale Tbilissi a ordonné la semaine dernière l'arrestation de Melia pour ne pas avoir payé la caution. À ce moment-là, le ministère de l'Intérieur a annoncé un rapport de la mise en œuvre de l'ordre de détention de Melia suite à la démission de Georgi Gakaria. Gakaria, qui a démissionné le 18 février, a déclaré que sa décision avait été déclenchée par des désaccords avec sa propre équipe sur les ordres de détenir Melia. Au moins 9 personnes se sont noyées lors d'une sortie en famille sur le lac égyptien. Au moins 9 personnes se sont noyées lorsque leur bateau a coulé lors d'une sortie en famille dans un lac au sud de la ville côtière égyptienne d'Alexandrie. Selon le bureau du gouverneur mardi, 7 personnes ont survécu à l'accident du lac Mario, dont 5 qui avaient besoin de soins médicaux. Une recherche est en cours pour retrouver un nombre indéterminé de personnes disparues. La cause de l'accident n'est pas claire. Des ressources médicales et de sécurité ont déclaré que le bateau avait coulé à voir le coucher du soleil lundi. Mener une diplomatie de navette, la ministre indonésienne des Affaires étrangères a discuté de la question de la Birmanie avec l'ASEAN. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, menait une diplomatie de navette avec ses partenaires qui sont membres de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ASEAN, pour se concentrer sur la résolution des problèmes politiques de la Birmanie. La consultation a eu lieu lors de sa visite au Brunei Darussalam le 17 février et s'est poursuivie à Singapour le lendemain. Dans un proche avenir, la ministre Retno doit se rendre en Thaïlande. Selon le porte-parole du ministère indonésien des Affaires étrangères, Teuku Fejosa, l'effort diplomatique a été mené pour donner suite au mandat du président indonésien, qui a convenu avec le premier ministre malaisien de la nécessité d'une réunion spéciale des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN pour discuter de la résolution du crise politique en Birmanie après le coup d'État militaire du 1er février 2021. Fejosa, lors d'une conférence de presse virtuelle à Jakarta mardi, a déclaré « Depuis que le conflit politique a refait surface en Birmanie. L'Indonésie a exprimé son inquiétude et a appelé à une résolution de la crise en appliquant les principes contenus dans la charte de l'ASEAN, y compris l'engagement envers la loi, la bonne gouvernance, les principes démocratiques et la gouvernance étant constitutionnelle. Le gouvernement tente de maintenir l'approvisionnement en vaccins. Le gouvernement continue de s'efforcer de maintenir l'approvisionnement en vaccins COVID-19 en plus d'importer des vaccins de plusieurs pays. L'Indonésie tente également de développer des vaccins nationaux. Porte-parole du ministère de la Santé du vaccin COVID-19, Siti Nadia Tarmizi, et un communiqué à Jakarta mercredi a indiqué que le parcours du programme de vaccins était toujours conforme au plan. Pas moins de 7 millions de vaccins ont été distribués. Siti Nadia a expliqué que selon la feuille de route, environ 1,45 million d'agents de santé sont ciblés pour recevoir les vaccins d'ici avril 2021. Pendant ce temps, les personnes âgées qui reçoivent des vaccins sont ciblées à environ 21,5 millions de personnes, puis les agents du service public jusqu'à 16,9 millions. L'envoyé du président de Seychelles a visité le KEK et le géoparc de Banka Blitong. L'envoyé spécial du président des Seychelles pour l'ASEAN, Nico Barito, a visité la zone économique spéciale KEK de Sungai Liat et le géoparc de Blitong, en province des îles Banka Blitong, pour voir directement le potentiel de coopération et d'investissement dans le développement de KEK de tourisme sur l'île productrice d'étain. C'est ce qu'a affirmé le gouverneur des îles Banka Blitong, Erzaldi Rosman Johan, mardi à Pangkal Pinang. Il a déclaré que la visite de l'envoyé spécial du président des Seychelles à Banka Blitong était parce qu'il voulait investir dans le développement de KEK touristique de Sungai Liat en régence de Banka et du géoparc de Blitong. En outre, le gouvernement de l'État des îles Seychelles est également intéressé et propose de collaborer au reboisement dans l'ancienne zone d'extraction de minerais d'étain sur les îles de Banka Blitong. L'envoyé spécial du président des îles Seychelles pour l'ASEAN, Nico Barito, a déclaré que cette visite était la première étape dans l'exploration de la coopération avec la province des îles de Banka Blitong pour soutenir le développement de l'écotourisme à Banka Blitong. Bonjour Gitar, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui. Bonsoir à tous, vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie et bientôt je vais vous présenter le commentaire d'aujourd'hui intitulé « Après la chambre basse, le Canada déclare que la Chine a commis un génocide ». Chers auditeurs, vous êtes avec moi Audrey. Après les États-Unis, il y a eu de plus en plus de critiques sur le traitement réservé par le gouvernement chinois à la minorité ouïghour. Du Canada, une déclaration a émergé selon laquelle la Chine avait commis un génocide contre le peuple ouïghour. Même s'il ne s'agit pas d'une déclaration officielle du gouvernement, ce qui est véhiculé par la Chambre basse du Canada a certainement une influence politique. Le vote de la Chambre basse du Canada sur les allégations de génocide a abouti à l'approbation de la plupart de ses membres. La motion a fait du Canada le deuxième pays après les États-Unis à accuser de génocide. Le gouvernement chinois a nié et souligné qu'il n'y a pas eu de génocide ni de détention de la communauté ouïghour. Pékin soutient que ce qui s'est passé n'était pas une détention, mais une tentative d'améliorer les compétences de la communauté ouïghour. En plus de la motion de génocide, les législateurs canadiens ont également exhorté le Comité international olympique a annulé la tenue des Jeux olympiques d'hiver par la Chine. Le Comité international olympique a précédemment désigné la Chine comme hôte des Jeux olympiques d'hiver de 2022. Fait intéressant, le Premier ministre Justin Trudeau et la plupart des membres de son cabinet à la Chambre basse se sont abstenus de voter. D'après son attitude et sa déclaration, le Premier ministre canadien Justin Trudeau semblait hésiter à faire une déclaration à ce sujet. Trudeau pense qu'il est nécessaire de procéder à un examen plus approfondi de la possibilité d'un génocide pour les Ouïghours musulmans. L'attitude de Justin Trudeau, qui n'indique pas nécessairement un génocide, semble être en phase avec l'attitude de plusieurs autres pays. Trudeau pourrait très bien vouloir maintenir les bonnes relations avec Pékin qui ont été établies. Cette condition est certainement différente de celle du gouvernement américain qui, depuis l'administration de Donald Trump, est en conflit avec la Chine. La réaction du monde à la déclaration de la Chambre basse du Canada selon laquelle la Chine a commis un génocide contre la minorité ouïghour reste à voir. C'est parce que chaque pays a un contexte différent et des politiques gouvernementales différentes. Bon, chers auditeurs, c'est tout le commentaire.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forco the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Bonsoir à tous. L'histoire d'aujourd'hui va commencer avec l'événement du 24 février 1920, le parti nazi a été fondé. Le parti travailliste national-socialiste allemand NSDAP, ou mieux connu sous le nom de parti nazi, est un parti politique qui existait autrefois en Allemagne. L'idéologie nazie mettait l'accent sur la propriété raciale du peuple allemand. Pour mettre en œuvre cette idéologie, les nazis ont perpétré les meurtres systématiques de 6 millions de juifs et de 5 millions d'autres personnes, principalement des Russes, des Polonais et des Roms. La politique d'Hitler de construire des empires en Europe au moyen d'une violence comme celle-ci a alors déclenché le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale en Europe. L'autre information est sur Juan Perón, est élu président de l'Argentine le 24 février 1946. Le 24 février 1946, Juan Domingo Perón est élu président de l'Argentine. En 1943, en tant que soldat, Perón se joint à un coup d'État pour renverser le gouvernement. En 1944, il est nommé vice-président et ministre de la guerre. Un an plus tard, il a été renversé de ses fonctions et emprisonné. Cependant, la demande présente des ouvrières et des travailleurs qui l'ont soutenu, Perón a été immédiatement libéré à nouveau. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 24 février 1955, la naissance de Steve Jobs. Steve Jobs est un personnage important qui a révolutionné l'informatique, la musique et l'industrie des communications cellulaires à travers Macintosh, iPod, iPhone et iPad. Il est né le 24 février 1955 à San Francisco, Californie, en 1976. Jobs et son ami ingénieur informatique Stephen Wozniak ont fondé Apple Computer dans un garage appartenant aux parents de Jobs à Alto, en Californie. Ensemble, le duo a gagné la renommée et la richesse un an plus tard avec Apple II, l'un des premiers micro-ordinateurs produits en série à succès. À un jeune âge, au milieu des années 20, Jobs est devenu multimillionnaire. Steve Jobs est mort le 5 octobre 2011 à l'âge de 56 ans en raison de la maladie. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Saja ini terbaik untuknya. Yakin kau harus bisa seperti aku yang sudah, biarlah sudah, mudah saja bagimu, mudah saja untukmu. Anda saja cintamu seperti cintaku. Setelah waktu berjalan, kau kembali datang, tanyakan keadaanku. ku bilang kau tak berhak tanyakan hidupku. Membuatku semakin terluka. Mudah saja bagimu, mudah saja untukmu. Coba saja lukamu seperti
amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici Mon Indonésie et on pour le titre. L'industrie des aliments et des boissons d'Indonésie intensifie sa commercialisation dans les régions du Golfe et du Moyen-Orient. Le ministère du Commerce continue d'intensifier ses efforts pour pénétrer les produits alimentaires et des boissons d'Indonésie sur les marchés non traditionnels tels que la région du Golfe et le Moyen-Orient. L'un d'eux est la participation de l'Indonésie à l'exposition Gulf Food 2021 au Centre mondial du commerce de Dubaï, Dubaï aux Émirats arabes unis, du 21 au 25 février 2021. Le directeur général du développement national des exportations du ministère du Commerce, Kassan, à Dubaï, a déclaré lundi dernier que cet événement était l'un des événements promotionnels pour les produits indonésiens dans la région du Golfe et le Moyen-Orient. Selon lui, les exportations de produits alimentaires et de boissons d'Indonésie ont le potentiel d'augmenter dans cette région. Cela peut être vu de l'augmentation de la valeur des exportations des produits alimentaires transformés de l'Indonésie vers les Émirats arabes unis en 2020. La valeur des exportations d'aliments transformés de l'Indonésie vers les Émirats arabes unis en 2020 a été enregistrée à 89,42 millions de dollars américains, soit une augmentation de 27,09% par rapport à l'année précédente. Gulf Food est la plus grande et la plus prestigieuse exposition annuelle au niveau international aux Émirats arabes unis. Lors de l'événement de cette année, 15 entreprises indonésiennes ont participé. Il a expliqué que même si la pandémie n'était pas encore terminée, le ministère du Commerce voulait profiter le moment du début de l'année et de l'événement de Dubaï Expo 2021. Portant le thème Commerce avec l'Indonésie, le pavillon indonésien occupe la zone du World Food Hall de Sheikh Rashid. Le pavillon indonésien est le résultat d'une coopération entre la Direction générale du développement national des exportations du ministère du Commerce avec le Centre indonésien de promotion du commerce, ITPC de Dubaï, et le Consulat général de l'Indonésie à Dubaï. Les 10 des 15 entreprises indonésiennes qui participent à cette exposition sont facilitées par le ministère du Commerce. Ces entreprises sont actives dans les industries de l'alimentation, du thé, du café, des boissons, des épices, de l'huile de coco, du sucre de coco et des fruits frais. En outre, des entreprises participaient de manière indépendante à l'exposition au pavillon indonésien, à savoir l'industrie des aliments en conserve et de la transformation du palmier. Selon lui, au cours des 5 dernières années, 2016-2020, la tendance des exportations indonésiennes d'aliments transformés vers les Émirats arabes unis a augmenté de 6,23%. Les exportations de ces produits en 2020 ont atteint 89,42 millions de dollars américains. Les 5 principaux produits alimentaires transformés exportés vers les Émirats arabes unis au cours de cette période étaient le cacao, les extraits de café, les épices, l'huile végétale et la confiserie. Pendant ce temps, en 2020, les exportations non pétrolières et gazières d'Indonésie vers les Émirats arabes unis ont atteint 1,23 milliards de dollars américains. 5 produits exportés d'Indonésie vers les Émirats arabes unis avec la valeur la plus élevée de cette période étaient l'huile de palme et ses dérivés, les bijoux, les véhicules, l'acier et les téléphones portables. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Hujan membawa dan berlabuh di tepi ruang tak berujung.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Bonsoir à tous, retrouvons-nous dans votre rubrique quotidienne, le magazine culturel. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons Omar Fayu à Java East. Soyez toujours avec nous. La Voix d'Indonésie, le service international de RRI. Le nom Omar Fayu vient de la langue javanaise, la langue locale des résidents de Malang qui semble très unique. Omar signifie maison, Kayu signifie caillou ou bois. Ainsi, Omar Fayu signifie maison en bois. Ce quartier a été construit en 2014. Cela fait presque 4 ans que cet endroit devient une alternative pour les résidents de Malang pour passer leur week-end et vacances. Omar Fayu est situé à une altitude de 1342 mètres au-dessus du niveau de la mer ou l'équivalent d'une chaîne de montagnes comme le Mont Andong à Magelang. La route vers la cabane dans les arbres est également assez fatigante, car la piste monte et descend aussi comme en escalade. Cependant, le chemin reste assez facile plutôt que la piste d'escalade. Les rizières, les vallées, les montagnes et de nombreux petits bâtiments seront les attractions de votre voyage vers certaines des cabanes dans les arbres d'Omar Fayu. En plus d'être un endroit idéal pour les selfies, Omar Fayu est également un hébergement. Il y a plusieurs chambres en bois. La particularité d'Omar Fayu ou Tree House est qu'elle est entièrement conçue avec des matières premières en bois où il y a 6 unités. Chaque unité a une superficie de 3 par 2 par 2 mètres. Omar Fayu est fabriqué à partir de bois de bonne qualité et solide, à savoir le bois d'eucalyptus comme cadre de construction, également pour les clôtures et les balcons. Les murs utilisent des planches de bois de pin qui sont disposées étroitement pour que les occupants se sentent au chaud tout en restant ici, car le toit utilise des matériaux à base de fibres. En tant qu'hébergement, ce lieu est également pourvu d'un lit, de deux oreillers, d'une couverture et de coutellerie. Cependant, la salle de bain n'est pas dans la chambre, mais dans un autre endroit séparé du bâtiment. Pour les 6 unités des cabanes dans les arbres de Malang, il y a des salles de bain extérieures équipées d'eau chaude. L'un des avantages est l'unicité de choisir de séjourner à Omar Fayu ou Tree House et que vous pouvez clairement voir la beauté de la ville de Batu de nuit ou de jour. Parce que l'emplacement de cette cabane dans les arbres est à l'ouest de la ville de Batu, qui est située au sommet des collines et des montagnes qui entourent la ville de Batu. La nuit, si le temps est clair sans brouillard, vous pouvez voir la beauté des lumières scintillantes dans toute la très belle ville de Batu. Le matin, vous pouvez voir le magnifique lever de soleil et l'atmosphère naturelle des montagnes et de la nature. Uniquement, On m'accueille le nera à chaque invité qui séjourne ici de graines d'arbres qui doivent être plantées dans la zone d'hébergement. Ceci est fait pour préserver la nature dans les environs. En plus de pouvoir prendre des photos avec des arrière-plans uniques et de rester dans la maison en bois, vous pouvez également profiter de déjeuner ou de dîner avec un menu varié. Ainsi, vous n'avez pas à vous inquiéter si votre estomac est soudainement vide. Même si vous êtes en vacances, vous devez toujours mettre en œuvre des protocoles de santé. Portez un masque, se laver les mains et garder ses distances. Passez de bonnes vacances. Chers auditeurs, c'était le magazine Culture pour ce soir. Merci de votre attention. Au revoir.
Aku tak pernah begini. Jantungku berdetak sangat kencang saat ku melihatmu. Wahai elok parasmu, membuatku menjadi gemeteran saat ku memandangmu. Tapi
Chers auditeurs, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute. Bonsoir à tous, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie et on se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien. C'est une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie. C'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi, Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est Biaya Hidup Sama Murahnya. Biaya Hidup Sama Murahnya. En français, le coût de la vie est tout aussi bon marché. Bonne écoute. Chers amis, ensuite je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien intitulé Biaya Hidup Sama Murahnya. Biaya Hidup Sama Murahnya. En français, le coût de la vie est tout aussi bon marché. Cette conversation se déroule entre Kevin et Boris. Boris est le nouveau voisin de Kevin. Boris compare le coût de la vie entre l'ancien et le nouveau. Bonne écoute.
Menurutmu, bagaimana biaya hidup di tempat yang baru ini?
Biaya hidup di sini sama murahnya dengan biaya hidup di tempat yang lama.
Chers amis, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Biaya hidup sama murahnya. Biaya hidup sama murahnya. En français, le coût de la vie est tout aussi bon marché. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Et puis, vous pouvez me répéter. Biaya. Biaya. En français, le coût. Biaya hidup. Biaya hidup, le coût de la vie. Di sini, ici. Di tempat lama, en français, l'ancien place. Sama murahnya dengan, et aussi bon marché que. Biaya hidup di sini sama murahnya dengan di tempat lama. Biaya hidup di sini sama murahnya dengan di tempat lama. Le coût de la vie ici est aussi bon marché que celui là-bas. Chers amis, dans la conversation, vous avez entendu une phrase « Biaya hidup di sini sama murahnya dengan di tempat lama ». « Biaya hidup di sini sama murahnya dengan di tempat lama ». En français, le coût de la vie ici est aussi bon marché que dans l'ancien. Dans cette expression, il y a une phrase sama murahnya dengan. Sama murahnya dengan. En français, aussi bon marché que. En indonésien, la phrase sama murahnya dengan, en français, aussi bon marché que, est utilisée pour un niveau de comparaison identique ou équivalent. Sama murahnya dengan, aussi bon marché que, suivi par l'objet de comparaison. Par exemple, biaya hidup di sini sama murahnya dengan di tempat lama. Biaya hidup di sini sama murahnya dengan di tempat lama. En français, le coût de la vie ici est aussi bon marché que dans l'ancien. En réponse à une expression comparative, égale ou équivalente, vous pouvez également utiliser une affixe suivie d'un adjectif. Voici un autre exemple de conversation. Kevin. Menurutmu bagaimana biaya hidup di tempat yang baru ini? Menurutmu bagaimana biaya hidup di tempat yang baru ini? En français, que penses-tu le coût de vie ici dans ce nouvel endroit? Boris, biaya hidup di sini semurah di tempat lama. Biaya hidup di sini semurah di tempat lama. En français, le coût de la vie ici est aussi bon marché que dans l'ancien. Kevin, menurutmu bagaimana biaya hidup di tempat yang baru ini? Menurutmu bagaimana biaya hidup di tempat yang baru ini? En français, que penses-tu le coût de la vie ici dans ce nouvel endroit? Boris, Biaya hidup di sini semahal di tempat yang lama. Biaya hidup di sini semahal di tempat yang lama. En français, le coût de la vie ici coûte aussi cher que dans l'ancien. Chers amis, lorsqu'il utilise la même comparaison ou une comparaison équivalente, les Indonésiens utilisent souvent la même expression. Sama seperti. Sama seperti. En français, que. Alors, la phrase biaya hidup di sini sama murahnya dengan di tempat lama. Biaya hidup di sini sama murahnya dengan di tempat lama. En français, le coût de la vie ici est aussi bon marché que dans l'ancien. Peut être remplacé avec biaya hidup di sini sama seperti di tempat lama. Biaya hidup di sini sama seperti di tempat lama. En français, le coût de la vie ici est le même que dans l'ancien. Chers amis, avant de terminer apprendre l'indonésien pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute.
Menurutmu, bagaimana biaya hidup di tempat yang baru ini?
Biaya hidup di sini sama murahnya dengan biaya hidup di tempat yang lama.
Chers auditeurs, voilà l'édition d'apprendre l'indonésien pour ce soir. J'espère que cette édition pourrait être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir. Amis, c'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3,3 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bon, écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie. Vous êtes avec moi, Audrey. Maintenant, je vais vous présenter le magazine musical. Et cette fois, vous allez écouter une chanson pop traditionnelle de Kalimantan occidental, intitulée Ae Kapuas, chantée par Rino Prasetya et Hendry Lamiri. Chers auditeurs, la chanson Ae Kapuas a été créée par Paul Putra Frédéric et raconte l'histoire de la rivière Kapuas et de la ville de Pontianak. La rivière Kapuas est la plus longue rivière du Kalimantan occidental et aussi la plus longue d'Indonésie. En outre, la chanson Ae Kapuas raconte également l'histoire de la ville de Pontianak qui est diffusée par la rivière Kapuas. On dit que Pontianak était autrefois une forêt, mais maintenant c'est devenu une ville. À la fin des paroles, il est dit que quiconque a déjà bu l'eau de la rivière Kapuas ne peut jamais l'oublier. Bon, chers auditeurs, voici Rino Prasetya et Hendry Lamiri vont chanter une chanson pop traditionnelle de Kalimantan occidental intitulée Ae Kapuas. Bonne écoute. Thank you.
laju, sampan laju dari hilir sampai ke hulu. Sungai Kapuas sungguh panjang dari Dolok membelah kota. Tak disangka dulu hutan menjadi kota. Ramai penduduknya, Pontianak nama kotanya. Sungai Kapuas punya cerita, bila kita minum airnya, biarpun pergi jauh ke mana, sungguh susah nak ngelupakannya.
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @boyindonesia, et d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.